Mbandaka sur Chantrois.
Auditrice de la Mongala, une ONG dénommée Alpha Motor a pris l'initiative de réhabiliter la prison centrale de Lissala avec ses propres moyens. Créée en 1922, cette prison qui se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, elle ne peut plus garder correctement des détenus avec des murs écroulés et des cellules sans porte. Cette maison de détention est aussi envahie par des hautes herbes. C'est presque régulièrement qu'on y enregistre des cas d'évasion. Nous allons en parler avec Ghislaine Nentobo. Ghislaine, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour JR, je suis en ligne.
Alors pouvons-nous d'emblée connaître ce qui a vraiment motivé cette initiative de l'ONG Alpha Motor?
Selon Angoli Gilbert, président de cette ONG, lui et les autres membres de son association sont partis du constat selon lequel des personnes arrêtées auteurs de diverses infractions, quelle que soit leur gravité, ne subissent pas des punitions comme il se doit. Elles se retrouvent dehors un ou deux jours après. Et parfois, elles vont jusqu'à proférer des menaces à l'endroit des gens qui leur avaient fait arrêter. C'est une situation qui n'enchante pas du tout la population qui se sent de cette fait dans l'insécurité. Et l'ONG Alpha Motor attribue de son côté cette situation au manque d'une prison digne de ce nom où les condamnés devraient normalement purger leur peine. Par conséquent, les cas de vol, de viol, d'assassinat et d'autres cas de criminalité, au lieu de diminuer, ne font qu'accroître dans les territoires de Lissala.
Qu'est-ce que l'ONG Alpha Motor a déjà fait de concret dans la prison 22 de Lissala depuis qu'elle a débuté les travaux de réfection de cette maison d'arrêt? Si vous pouvez nous faire une idée précise là-dessus, Ghislaine.
À en croire le responsable de cette ONG, d'abord on a procédé au désherbage de la prison qui ressemblait pratiquement à une grande forêt. On a replacé les portes et les fenêtres de certaines cellules qui étaient presque inexistantes. Et on a pu, à l'aide de quelques sacs de ciment, réparer certaines fissures des murs. La façade d'une partie des murs de l'enclos est déjà repeinte, pour ne citer que ces exemples-là.
Mais avec quels moyens l'ONG Alpha Motor est en train de réhabiliter cette prison de Lissala?
C'est grâce à ses propres moyens, JR. Mis à part les cotisations mensuelles de chaque membre, cette ONG qui a vu le jour seulement en 2006 développe plusieurs activités, notamment le transport des personnes et l'évacuation des produits agricoles de l'intérieur vers Lissala Centre. Les recettes qu'elle réalise avec ses différentes activités lui ont permis de réaliser ses travaux à la prison centrale de Lissala. Tu veux plutôt ce qu'en dit le président de l'ONG, Angoli Gilbert.
Aussi, il y a un peu de membres, tout comme nous avons mis
Alors, au moment où Alpha Motor exécutait les travaux de réhabilitation de cette prison, Gitan, qui était devenu les condamnés et les détenus, était-il toujours là sur place?
Selon le deuxième substitut du parquet de Lissala, Jean-Denis Kekombe, qui assume l'intérim du procureur de la République, ils étaient gardés momentanément au palais de justice qui a été de même que la prison centrale incendiée en mars 2007 par des manifestants lorsque la population s'était soulevée contre le meurtre d'un jeune homme tué par un élément FRDC. Le palais de justice de Lissala avait tout perdu, toges des magistrats, portes, fenêtres, toitures et même la documentation. Dans cet état-là, les condamnés et les détenus transférés à cet endroit s'évadaient comme ils le pouvaient. Les 22 qui sont restés là sont plutôt des prisonniers volontaires ou simplement des citoyens consciencieux qui voulaient voir l'issue de leur cause de peur d'être poursuivis encore un jour par la justice.
Voilà, donc les 22 qui sont volontaires, est-ce que c'est ce que justifie l'appellation actuellement de cette prison, la prison 22 de Lissala?
Exactement, parce que cette prison a même été créée en 1922 à l'époque coloniale.
Voilà, alors comment réagissent les juristes de l'Issala face à cette initiative de l'ONG Alpha Motor?
Ils sont à moitié satisfaits hier, car selon eux, il reste beaucoup à faire malgré les efforts que l'ONG Alpha Motor a fournis. Pour les magistrats du parquet de l'Issala, malgré le travail abattu jusque-là par Alpha Motor, ils ne cessent de connaître des cas d'évasion. Écoutez tour à tour le président du tribunal de l'Issala, Dieudonné Olé, et le magistrat Jean-Denis Kikombe, deuxième substitut du parquet de l'Issala, que nous avons joint au téléphone.
Bon, on est satisfait dans la mesure où on a placé des portes hein, au niveau de quelques cellules. Alors, ça permet de garder les détenus, les condamnés, n'est-ce pas, dans ces cellules-là. Donc, le palais de justice est incendié et on les a amenés, n'est-ce pas, à la prison. Mais le travail à faire reste encore immense. Hein, il faut qu'on refasse le papier, n'est-ce pas, pour ces deux ailes-là, pour mieux garder les détenus. C'est ce qui peut toujours monter, puis sortir de l'autre côté.
La prison était incendiée et le prisonnier restait dans ce bâtiment-là qui était un état de délabrement très avancé qui était là, c'était que des volontaires. La réhabilitation est encore partielle, si du moins on réfectionne la prison totalement et qu'on change à la restauration, tout ça, on pourrait limiter l'évasion. On espère bien que les autorités pourront intervenir pour qu'on puisse finaliser ces travaux.
Alors, Jetlen, l'ONG Alpha Motor compte également poser cette même action au palais de justice de l'Issala qui a été incendié.
Cette ONG comptait étendre son action plutôt à la prison militaire d'Angenga, à plus ou moins 25 km de l'Issala, abandonnée depuis la prise du pouvoir par l'AFL. L'auditeur des garnisons de l'Issala, Parfum Boutamoutou, indique d'autre part qu'au cachot de l'auditorat sur place à l'Issala, chaque détenu amène sa natte de chez lui. Dans cette cellule de moins de 4 mètres carrés, ajoute-t-il, il n'y a même pas de lampe. Mais Gilbert Angoli, responsable de l'ONG Alpha Motor, déclare que son association va tenter de faire quelque chose à la mesure de leurs moyens pour la réhabilitation, tant soit peu, de la prison militaire d'Angenga.
Voilà, ça c'est un cri d'alarme, un cri de détresse. Je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nous allons peut-être terminer avec vous, Ghislaine. Avez-vous un autre élément particulier à ajouter avant qu'on se quitte?
Tout à fait, je voulais signaler le lancement mardi dernier des travaux de réhabilitation du parquet de grande instance de l'Issala par le service de l'urbanisme et habitat. Le coût global des travaux est de 6 000 dollars américains avec le financement du gouvernement provincial de l'Équateur.
Voilà, avec notre invité, Guy Inengue, ministre provincial de la Justice, Mine, Énergie et Relations avec l'Assemblée provinciale, nous aurons un peu plus de détails. Mais avec vous, on s'arrête là et à très bientôt.
À bientôt.
Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Guy Inengue, ministre provincial de la Justice, Mines, Énergie et Relations avec l'Assemblée provinciale. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
L'état dans lequel se trouvent actuellement les prisons du district de la Mongala est déplorable. Que compte faire le ministère provincial de la Justice?
Merci. Le prison de la Mongala, tout comme à l'instar d'autres prisons de la province de l'Équateur, sont aujourd'hui en état avancé de délabrement, y compris même la prison centrale de Mbandaka, où le gouvernement provincial a déjà mis à contribution les services du génie militaire pour se faire. Mais quant à la prison de l'Issala, vous le savez, il y a une ONG qui a été mise aussi à contribution grâce aux interventions ponctuelles des deux députés nationaux de l'ISALA, en la personne de Madame Epoli, Marie-Louise, ainsi que l'honorable Pascal Lipimba, qui ont donné une enveloppe par rapport à cela, et nous sommes quand même satisfaits qu'aujourd'hui la prison soit plus ou moins opérationnelle. Tandis qu'en ce qui concerne le palais de justice, là, le gouvernement provincial est intervenu avec une enveloppe de l'ordre de 3 millions de francs congolais, ce qui fait l'équivalent de 6 000 dollars. Et à ce niveau-là, c'est le commissaire de district de la Mongala qui a mis à contribution, n'est-ce pas, le service de l'urbanisme et habitat, ainsi que celui des travaux publics locaux pour la réhabilitation de ce palais de justice. Et je crois qu'il, incessamment, pourra servir à nouveau de bureau pour les parquets et les tribunaux de grande instance. Mais pour ce qui concerne toutes les maisons d'arrêt et les prisons, à mon niveau, je crois que nous avons déjà un plan provincial de réhabilitation par rapport à cela. Le gouvernement provincial pourra, à son niveau, avec les peu de moyens dont nous pouvons disposer, déjà commencer à faire ce que nous pouvons faire, et ensuite solliciter aussi, pourquoi pas, les interventions, soit du gouvernement central, soit d'autres interventions, d'autres partenaires qui sont en dehors des cultures de l'État. Voilà en bref ce que je peux vous présenter comme situation aujourd'hui.
Oui, oui, Guy Lemier, vous avez dit que vous avez déjà un chronogramme, vous souciez de l'État de prison de l'Équateur, mais ici ce n'est pas indiscret, parce que les gens qui nous suivent, les auditeurs, et surtout ceux-là qui sont à l'Équateur, ils aimeraient un peu une promesse ferme. Quand est-ce que vous allez commencer à réhabiliter des fonds en comble les maisons carcérales?
Nous avons déjà commencé à le faire. Tout à l'heure, j'ai dit que le gouvernement provincial...
Parce que là, au niveau de l'Isala, il n'y a eu que le désherbage. Donc, les gens disent que c'est juste des petits travaux, mais des grands travaux de réhabilitation qui feront en sorte que l'image de la justice qui a été ternie ou puisse être redorée.
Pas du tout. Les travaux, nous avons commencé d'abord, parce que pendant que l'ONG travaillait sur la prison 22, hein, la prison qu'on appelle 22 communément, nous nous sommes engagés d'abord au niveau du palais de justice, parce que les magistrats n'avaient même pas de bureau, il n'y avait plus de salle d'audience, il n'y avait absolument rien. Donc le gouvernement provincial est intervenu à ce niveau-là. Et après l'étape, après la prison de Mbandaka ici, la prochaine étape, c'est celle de la prison de l'Isala, et ensuite d'autres...
Alors
exigences sont vraiment pressantes, nous allons essayer de voir aussi la prison d'Angenga. Vous savez, Angenga c'était une grande architecture, et je pense, j'ai suivi tout à l'heure là les amis de l'ONG Alpha Motor de M. Gilbert Angoli, qui j'apprécie bien dans ses actions, voudraient intervenir, mais cela ne pourra pas suffire, hein, parce que ça demande vraiment des moyens énormes, et là c'est le gouvernement provincial qui pourra se mettre vraiment en action, et nous sommes en train de le faire.
Oui, nous sommes déjà. Parce que vous êtes le numéro 1 de ministère provincial de la justice, est-ce que vous avez une idée en quoi consistait réellement la réhabilitation de la prison de l'Isala? C'était juste replacer les portes, c'était quoi concrètement?
Mais non, la prison de l'Isala, vous savez, c'est une prison qui a été construite depuis 1922, comme le dit son nom. Et c'est une prison, en principe, qui mérite d'être remplacée par une autre. Mais avant qu'on trouve un autre pénitencier où nous pouvons caser, disons, les prisonniers et les détenus, nous ne pouvions que le réhabiliter celui-là. La réhabilitation ne consiste pas seulement au remplacement des portes et fenêtres. J'ai été procureur moi-même sur place là-bas en son temps, depuis 1999, 2000, 2001, j'ai quitté l'Isala, et je connais bien à quel état cette prison se retrouve. Donc il y a des murs, il y a même des locaux, des dortoirs qui méritent vraiment une touche de maçonnerie.
C'est
totalement passé.
Oui,
donc c'est des travaux de maçonnerie qui doivent être entrepris là-bas aussi.
Oui, mais après cette réhabilitation effectuée par Alpha Motor, est-ce que vous vous êtes rendu sur place pour palper du doigt cette réhabilitation?
Non, c'est incessamment que nous allons le faire. Je crois que avant-hier, j'étais en contact avec le commissaire de district assistant. Il m'a fait état de la situation sur le terrain. J'attends obtenir l'autorisation, parce que je suis retenu à des tâches d'État ici sur place. Mais je vais incessamment, d'ailleurs, en début février, nous serons pratiquement, c'est tout le gouvernement provincial qui va être déployé. Et moi, je ferai le nord de la province, et à l'occasion, je pourrai pratiquement inspecter et voir dans quel état se trouvent toutes les maisons d'arrêt, toutes les prisons de l'Afrique du Nord de l'Équateur. En
fait. Oui, il ne faut pas trop retarder votre visite parce que Guy Mengi, nous rappelons encore une fois que vous êtes ministre provincial de la justice à l'Équateur. Il faut dire une chose qui est vraie, c'est que la plupart des prisons RDC sont des mouroirs et que, bon, les détenus s'évadent quand ils le veulent. La plupart des détenus, d'ailleurs, sont des détenus volontaires. Alors, bon, finalement, on a l'impression que rien n'est fait pour réhabiliter ces prisons et que la situation risque de se détériorer davantage. Aujourd'hui, ce sont les ONG qui font le travail de l'État congolais. À votre niveau, est-ce que vous avez un programme de réhabilitation des prisons pour l'Équateur, ne plus que pour l'Équateur?
Oui, je l'ai dit que nous avons déjà un programme, nous avons établi souvent des cahiers de charges avec une feuille de route, c'est-à-dire qu'en étant un chronogramme, ça c'est normal, nous devons, mais il faudrait voir les urgences, là où ça peut, et nous sommes déjà intervenus. Vous voyez par exemple les 6 000 $ dont on vous a parlé pour le palais de justice. La prochaine étape, ce sera la prison. Et en dehors de la prison, nous n'allons pas seulement nous limiter à l'aspect des détentions, mais nous allons voir aussi l'aspect santé. Dernièrement, par exemple, nous avons reçu une délégation de la Banque mondiale par rapport au programme PAS, sur le programme d'appui à la réhabilitation du secteur santé. Et nous entendons faire inscrire aussi des projets en ce qui concerne le secteur santé des maisons d'arrêt et des prisons.
Nous retenons que le gouvernement provincial de l'Équateur a des moyens pour exécuter ce programme.
Madame, c'est une question de volonté. Déjà, avec ce qui se passe en Mbandaka ici, ça étonne plus d'une personne, si vous avez déjà visité Mbandaka depuis que ce gouvernement provincial est en action, ça peut étonner plus d'une personne. Et c'est avec la même volonté que nous allons nous y mettre par rapport à tout ce
qui... Oui, dans votre chronogramme, quels sont les moyens que vous avez mis à votre disposition pour la réhabilitation d'une des prisons de l'Équateur?
Mais déjà, il y a plus. Je crois que se passe ici à Mbandaka, je n'ai pas le chiffre exact avec moi, mais il y a eu plus de 2 ou 3 types de questionnements au niveau, par exemple, de la prison centrale de Mbandaka. Et c'est énorme. Aujourd'hui, avec l'insécurité qui a eu pratiquement, qui avait prédominé lors du mois de décembre dernier, tous les délinquants qui ont été mis hors d'état de nuire ne peuvent plus aujourd'hui s'évader grâce, n'est-ce pas, à la nouvelle architecture que nous avons mis en place.
Ça, c'est la prison centrale de Mbandaka.
Donc, ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes en train de mettre les moyens.
Et vous qui avez...
Les chiffres, je ne sais pas les avoir tous. Vous voyez, vous m'avez pris en cours de route. J'étais en train de rouler. J'ai juste arrêté.
Merci de vous répondre à votre préoccupation. Madame. Donc, c'est vous qui avez réhabilité la prison centrale de Mbandaka. Ce n'est pas une ONG qui a fait le travail?
Il y avait bien sûr l'intervention des ONG. Il y avait la MONUC. Mais le reste, aujourd'hui, la réhabilitation, eux, ils ont réhabilité 10 locaux. Ils sont venus, ils l'inauguraient. Mais le reste, aujourd'hui, nous avons atteint le nombre de plus de 20 locaux, alors totalement réhabilités, avec des équipements aussi. Donc, nous sommes en train d'aller mollo, mais en fin de compte, l'essentiel pour nous, c'est d'arriver vraiment au fond de la chaîne.
Oui, Guy Nengue, nous pensons que vous êtes, on imagine que vous êtes réellement en action. Est-ce que pour faire un travail correct, avez-vous eu le temps d'évaluer les besoins?
Je crois ce matin, avant que vous me téléphoniez, j'étais en pleine séance de travail avec tous les chefs de division, y compris celui de la justice et droits humains. Ils ont déjà présenté leur état des lieux et nous sommes pratiquement en train de chiffrer maintenant, étape par étape. Mais dans l'autre sens, nous ne pouvons pas croiser les bras, attendre jusqu'à ce qu'on fasse un programme global avec les chiffres globaux, non. Nous y allons, c'est ça pour les mêmes. Nous disons Mbandaka, nous attaquons Mbandaka et les techniciens qui sont mis à contribution font le travail, mais le gouvernement provincial.
Et les techniciens vont terminer ce travail, c'est ça. Ils
ont prévu ces interventions-là, quitte à voir aussi auprès de certains partenaires que nous allons contacter, bien sûr, c'est notre rôle.
C'est surtout les partenaires.
On prend le contact avec les partenaires.
C'est surtout les partenaires qui font le gros du travail. Vous ne venez que compléter. En tout cas, c'est l'impression que nous avons.
Non, pas du tout, madame. Pas du tout. Il faut être à notre place pour le savoir. Mais si vous étiez ici sur place, vous auriez été témoin oculaire des efforts qui sont entrepris jusque-là par le gouvernement provincial. Sans trop de moyens, mais c'est plus de la volonté qui nous fait partir et nous accompagner.
Alors, nous souhaitons bonne chance aux techniciens qui travaillent déjà pour l'évaluation des besoins. Nous allons faire le suivi juste après, quand ça sera effectif, quand vous allez, disons, lancer effectivement cette opération.
Voilà,
Guy Nengue, nous rappelons que vous êtes ministre provincial de la Justice. Merci d'avoir été de notre et à la prochaine.